Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où vous pouvez voir Charles Gave en chair et en os. Il nous est revenu d'Asie,
oui.
Après un périple difficile. Attends, je t'enlève un cheveu.
Il est difficile. Et puis il faisait chaud et c'était très étonnant parce qu'on a eu deux ou trois typhons. Et d'habitude, le typhon, c'est en octobre, septembre. Et là, c'était en novembre et il faisait 28 alors que d'habitude, il fait 21. Donc, ben voilà, ça a secoué.
Alors moi, je voulais remercier un de nos auditeurs qui est passé et qui m'a offert cette chose ravissante, qui, comme vous pouvez voir, est un éventail fait de billets. Alors, je crois que c'est des billets chinois, hein, je crois, mais on est sûr. Mais alors, je sais pas trop d'où, mais en tout cas, je trouve que ça pète la classe. Hein.
Ça pète la classe. En tout cas, si tu veux aller, je sais pas où, dans une réunion d'un financier et que tu commences à te...
À m'éventer, écoute,
à t'éventer,
je trouve que...
Ça fait chic.
Non, je trouve que ça fait chic. Écoute, ça fait fille de banquier, je trouve ça parfait. Bon, sinon, avant de commencer, aujourd'hui, on va vous parler... Alors, aujourd'hui... J'ai décidé de faire une émission sur le portefeuille parce que certains d'entre vous, bien que nous ayons monté l'Université de l'Épargne à Clotet, se sentent orphelins et me disent « Oui, mais nous, on suivait le portefeuille de Charles qui nous donnait des conseils depuis 4 ans et on se sent orphelin et voilà. » Alors, afin que vous ne vous sentiez pas orphelin et que nous répondions à cette demande, aujourd'hui, nous allons faire une émission pour vous expliquer que, parce que certains d'entre vous ne savaient pas que le portefeuille avait changé, donc on va vous expliquer l'ancien portefeuille, où il en était. Charles va vous faire
Qui est pas plus mal qu'un autre,
va vous faire une petite restauration. Bien qu'il y ait eu un peu de coup de vent sur LVMH et ainsi de suite,
mais
on va en parler.
Ça n'a pas beaucoup d'impact.
Mais ça n'a pas beaucoup d'impact parce que c'est le principe du portefeuille antifragile, c'est qu'il est incroyable antifragile. Et ensuite, si on a le temps, je vous ferai un petit cours sur ce qu'est devenu le portefeuille, sa vie, son œuvre, les ETF qu'on a
utilisés, sur les changements qu'on a apportés.
Voilà. Et ce que vous pourriez faire, même si vous n'adhérez pas à l'Université de l'Épargne. Alors, cependant, aussi, dans la série, vous savez que Charles a commis deux ouvrages aux éditions Pierre de Taillac, et on a trouvé bon de rééditer Un libéral nommé Jésus, toujours aux mêmes éditions Pierre de Taillac, donc vous pouvez le trouver si vous cherchez des cadeaux pour vos petites chaussures. Alors, Un libéral nommé Jésus, tu veux en dire un petit mot ?
Oui, alors c'est un livre très curieux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est curieux. D'abord, pourquoi je l'ai écrit. C'est que j'avais écrit, pour commencer, des lions menés par des ânes. Et où j'expliquais comment fonctionnait l'économie, les relations entre les banquiers, le système privé, etc. Bref, c'était un livre qui était facile à lire, mais enfin, qui a d'ailleurs été un best-seller, puisqu'il s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires dans le silence attourdissant des critiques, mais ça c'est nouveau, c'est pas nouveau, hein. Et puis il y a toute une série de gens bien intentionnés qui m'ont dit « Charles, il est très bien ton livre, mais il est violemment contre les évangiles ». Enfin, contre ce que disait le Christ. Il n'est pas du tout chrétien. Alors, j'ai dit, bon, ben tiens, ça, voilà une idée qui est intéressante. Je vais relire les évangiles et je vais voir ce que le Christ dit dans la réalité de l'économie. Et à ma grande surprise, donc j'ai relu toutes les grandes paraboles, et je me suis retrouvé devant un discours qui était, mais alors, parfaitement libéral. C'est-à-dire que quand vous lisez les évangiles, il y a deux choses qui ressortent de façon extraordinaire. La première, c'est que Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. Le salut de l'humanité, honnêtement, je crois qu'il s'en tape. Il s'intéresse à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, comment allez-vous assurer votre salut personnellement? Donc, il va avoir un rapport personnel avec nous, individuel, ce qui est tout à fait étonnant. Et la deuxième chose qui ressortait, c'est que tous ceux qui prenaient des risques et qui se cassaient la gueule, la femme adultère, le fils prodigue, etc., ils étaient jamais punis s'ils demandaient pardon et puis s'ils revenaient. Et ceux qui prenaient aucun risque, les rentiers, qui bâtissaient des greniers pour leur blé et puis qui se disaient « je vais maintenant vivre paisiblement sans rien foutre », ceux-là, ils étaient condamnés tout de suite à mort et ils allaient en enfer. Donc, si vous faites la primauté de l'individu sur la tribu et la prise de risque comme seule façon de mener une vie intéressante, bah, c'est tout le libéralisme. C'est tout l'essentiel philosophique du libéralisme. Donc, j'ai écrit ce livre, j'ai repris les grandes paraboles. Et alors, ce qui est intéressant quand vous faites des paraboles, c'est que les spécialistes vous disent qu'il y a toujours trois explications à un texte sacré. Vous avez l'explication évidente, la première, celle que tout le monde comprend, quoi. Puis vous avez la deuxième, qui est celle pour les gens éduqués. Et il y avait un troisième sens qui est ésotérique, qui est pour les types qui vont chercher des trucs compliqués, tu vois, les spécialistes de la cabale, ou j'en sais rien. Et ce qu'il y a d'intéressant, donc j'ai pris les... Mais en aucun cas, l'explication ésotérique ne peut contredire l'explication simple, tu vois. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire autre chose, mais ça peut pas vouloir dire le contraire. Et donc, j'ai repris ces grandes paraboles, et je montre que c'est défense et illustration du droit de propriété, de la prise de risque avec la parabole des talents, je les détaille les unes après les autres. Et je dis, dans le fond... Le message du Christ, c'est vraiment ce qui fait la différence essentielle de notre civilisation. Et c'est très différent de ce qu'il y a dans la Bible. C'est-à-dire le message que jusqu'à ce qu'on arrive au Christ. Parce que le message dans la Bible, c'est un message qui est vraiment un peu collectif. Ceux qui dirigent vers les Juifs, il y a le peuple choisi, ils ont passé un accord avec Dieu. Et ce qu'il y a de marrant, j'ai dit ça, je le dis dans mon livre d'ailleurs, je crois, c'est que, dans le fond, les Juifs, ils avaient passé une convention collective avec Dieu. Bon. Et ils gueulaient tout le temps en disant, je l'ai pas signé, qu'est-ce que c'est que cette histoire, bref. C'est, ils étaient pas d'accord, ils arrêtaient pas de grogner, mais non, c'est pas vrai du tout, moi je suis pas d'accord, bon. Et donc, d'ailleurs, il y a une des paraboles qui dit exactement ça. Le Seigneur a dit, bon, j'ai envoyé toute une série de prophètes pour essayer de les convaincre, mais je vais envoyer mon fils. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, ce qui apparaît, c'est que le Christ remplace la convention collective par un contrat individuel. C'est-à-dire que il n'y a plus le peuple élu, etc. C'est chacun d'entre nous qui décide ou non de signer librement un contrat avec le Christ. Et donc, on voit ça. C'est très intéressant parce que ça change complètement la nature de la bête. Et voilà, donc j'ai essayé de reprendre ça, et c'est un livre qui m'a... Je sais pas d'où il sort. Quand je le relis, j'ai dit, mais quelle drôle de chose, pourquoi j'ai pensé ça? Donc je savais, à la limite, quand je l'ai écrit, je savais pas que je pensais ça.
Voilà, bah écoute, on va pas passer...
On va pas parler trop longtemps, mais vous pouvez le lire, c'est amusant, parce que c'est celui de loin qui m'a surpris le plus. Les autres, j'étais dans mon domaine, donc je me surprenais pas des masses. En allant dans les évangiles, je me suis surpris énormément, quoi.
Voilà, alors... Ça c'est pour un libéral nommé Jésus, si vous avez envie de compléter votre ou si vous ne l'avez pas encore acheté. On va revenir donc sur la leçon du jour qui était le portefeuille de Charles Gave. Alors à l'origine, je ne sais pas si vous en souvenez, vous allez avoir ça qui va apparaître sur vos écrans, le portefeuille de Charles était antifragile et était au début, en tout cas, réparti entre l'or, ce qui devait être des obligations chinoises, oui, mais qui ont été remplacées en avril par du cash en yen, et ensuite scindées entre 10 actions, qui étaient donc LVMH, Total, Accor, Sodexo, Schneider, L'Oréal, Air Liquide, Danone, Capgemini et Pernod Ricard.
Avec toute caractéristique commune, c'est qu'elles n'avaient rien à voir avec l'État français.
Rien à voir avec l'État français. Et l'idée était toujours de rebalancer soit mensuellement, soit trimestriellement. Mm-hmm. Le cash en yen donc aura remplacé les obligations chinoises. Si vous êtes resté en obligations chinoises pour les anciens, c'est pas grave, ça s'est bien passé aussi. Vous avez juste pas pris la hausse du yen si vous n'avez pas fait le changement, vous avez pas pris la hausse du yen de juillet. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur...
Alors maintenant, on va essayer de revenir à ce qui s'est passé et à ce qu'on peut attendre et de voir si le portefeuille qu'on vous a recommandé au départ, celui du début, c'est-à-dire obligations chinoises, or, etc., tient à peu près la route encore en fonction de ce qui est en train de se produire. Alors, je voudrais d'abord vous amener sur le premier graphique qui s'appelle taux de change euro contre dollar et moyenne mobile à 6 trimestres. Alors vous voyez, c'est un graphique qui remonte à 1972 quand les monnaies ont commencé à fluctuer les unes vis-à-vis des autres. La ligne noire, c'est simplement le taux de change de l'euro recalculé à partir de 2000 compte tenu de son... Il n'existait pas avant 2000, donc on l'a recalculé en fonction de ce qu'il aurait été s'il avait existé, quoi. J'aurais pu prendre le Deutsche Mark, ça aurait été à peu près pareil. Et puis l'autre ligne, qui est également, qui est bleu ciel, c'est la moyenne mobile à 6 trimestres, à 1 an et demi. Et alors vous voyez que quand vous regardez ce graphique, vous dites, bon, grosso modo, depuis 1972, il s'est rien passé. C'est tout plat. Mais vous voyez qu'il y a eu des grandes excitations autour de cette platitude, en quelque sorte. Et vous voyez que le dollar a connu un certain nombre de très grandes hausses, par exemple celle de 80 à 85, où il est passé de 1,40 à 0,7, c'est-à-dire qu'il a doublé vis-à-vis de l'euro.
Oui, donc c'est une échelle inversée.
C'est une échelle inversée, oui. Mais parce que tout le monde regarde l'euro, il est à 1,06, donc je l'ai mis comme 1,06, tu vois. Donc quand la ligne noire baisse, ça veut dire que l'euro baisse et que le dollar monte, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé de 80 à 85? L'Amérique latine a sauté. Elle a fait faillite, parce qu'elle s'était endettée en dollars et qu'elle pouvait pas payer. Puis vous avez une deuxième énorme gamelle qui s'est passée à peu près de 95 à 2000, allez. Et là, c'est l'Asie et la Russie qui ont sauté, parce qu'elles s'étaient aussi endettées en dollars et qu'elles ne pouvaient pas rembourser, donc grosse position short. À partir, et puis vous en avez une troisième qui a commencé, de grande baisse de l'euro, qui a commencé à partir de 2012, mais on sent bien qu'elle a été arrêtée par les coups des banques centrales qui essayaient d'empêcher l'euro de baisser, tu vois. Mais enfin, on est quand même passé de 1,50 à 1,06 sur l'échelle de droite, ce qui est quand même une sacrée baisse. Mais alors, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que j'ai tracé une ligne comme ça, parce que je suis vachement doué avec les règles, hein. Vous voyez qu'il va du plus bas de 85 au plus bas de 2000 et au plus bas de 2020, là, la crise du Covid. Tu vois, c'est la ligne qu'on a passée. Jamais le dollar, jamais l'euro était passé en dessous de cette ligne. Là, il a cassé. On est en dessous de la ligne. Oui. Il a essayé de remonter au-dessus. Et il échoue péniblement. Il échoue et il semble être en train de se casser la gueule. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'on ait une immense cassage de gueule de l'euro qui arrive.
Bah oui.
Et on le voit bien pourquoi, c'est que dans le fond, ils ont voté pour Trump, que Trump va nettoyer les écuries d'Augias de toutes les saloperies étatiques, et que nous, les écuries d'Augias, on n'est pas prêts de les nettoyer, hein, on n'a même pas commencé, quoi. On n'a même pas commencé à considérer qu'on avait peut-être un État trop gros. En fait,
on n'a même pas commencé à considérer que c'était des écuries, donc si tu veux.
et surtout qu'elle puait parce que c'était.
Encore une fois, c'est toujours pareil. Couches des bébés, les hommes politiques doivent être changés souvent et pour les mêmes raisons. Voilà, et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas changé nos hommes politiques.
Voilà. Et ça commence vraiment à puer.
À puer.
Et donc, alors, imaginez une seconde. Bon, mais alors, pourquoi? Puisque la première fois, c'était l'Amérique latine, la deuxième, c'était l'Asie, la troisième, c'était la crise de l'euro. Quelle est la crise qui pourrait amener? Ben, c'est la crise française. C'est-à-dire, est-ce que la France va être le pays qui va être comme l'Amérique latine, comme l'Asie, qui va sauter?
Ben, c'est soit nous, soit l'Allemagne.
C'est peut-être les deux, d'ailleurs.
Peut-être les deux. L'Italie s'en sort très bien grâce à son tissu industriel, PME, DI, qui va bien.
Et puis, en plus, ils ont financé eux-mêmes leur déficit budgétaire. Ils n'ont pas fait financer par l'extérieur.
Il y a 5 ans, on s'est dit, ça sera l'Italie. Et maintenant, plus ça passe, plus on se dit, c'est la France ou l'Allemagne.
Maintenant, c'est la France. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, essayez de vous placer dans l'hypothèse maintenant que l'euro va vraiment se viander, ce qui n'est pas impossible, hein, puisqu'il ne réussit pas à remonter au-dessus de cette ligne, et donc il va sans doute baisser fortement. Alors, qu'est-ce qui va arriver au portefeuille de départ qu'on avait fait?
Donc, le premier.
Le premier. Alors, d'abord, on va regarder ce qu'il a fait. Bon, vous voyez, là, je l'ai fait avec un rebalancement tous les mois, je crois. Grosso modo, la ligne rouge, c'est le portefeuille idéal des 10, c'est le portefeuille idéal des 10 valeurs plus l'or plus les obligations chinoises.
L'as laissé obligations chinoises, donc
T'as
même pas pris la hausse du Hague, Yann. T'as pris l'option la plus conservatrice.
La plus conservatrice. Donc, vous êtes monté de 50% depuis qu'on a créé ce portefeuille.
Il y a 4 ans.
1, 2, 3, 4, on arrive 5 ans. Bon, bah, c'est-à-dire que vous avez fait aller un petit 10% par an. La bourse de Paris a fait.
Au réel? Réel?
Non, ça c'est juste nominal.
Nominal.
La bourse de Paris a fait 10 points de moins, 142 contre 152, dividende réinvesti, hein. Mais regarde, tu vois, la bourse de Paris, si tu étais rentré début janvier, tu te perds quelque chose comme 33%.
La bourse, c'est le bleu avec l'indice MSCI.
MSCI, qui est la même chose que le CAC. Et puis vous voyez que chaque fois que la bourse de Paris baisse, notre portefeuille, il fait pas grand-chose, puisqu'il a une partie antifragile très forte. Et puis, il fait aussi, donc il fait mieux sur le long terme. Et si je vais sur le graphique suivant, regardez, c'est ça que j'essaye à faire quand je construis un portefeuille. C'est ça à laquelle j'essaie d'arriver. C'est que, vous voyez, ça, c'est votre portefeuille. Si vous avez acheté de l'indice de la Bourse de Paris, la variation sur 12 mois, c'est la ligne bleue. C'est-à-dire, de temps en temps, vous perdez 25%, ou bien vous montez de 60, ou bien vous perdez moins 10. Vous voyez, tu vois. Et la volatilité de votre portefeuille antifragile, lui, bah, il est pour ainsi dire jamais perdu d'argent, il est toujours au-dessus de la ligne zéro, et puis il se balade entre plus 20 et zéro, tu vois, comme ça. Mais donc, c'est exactement ça ce que je cherche à faire, c'est-à-dire un portefeuille qui fait mieux sur le long terme, mais qui bouge beaucoup moins sur le court terme, tu vois, c'est-à-dire c'est ça l'art de la gestion, c'est d'essayer de bâtir un truc qui monte paisiblement sans te donner des arrêts du cœur. Parce que quand tu perds moins 30 ici, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je garde ou je vends?
Oui, bah oui.
Probablement tu vends, parce que t'es mort de trouille en disant, je peux pas me permettre de perdre 30% de plus. Tandis que dans mon portefeuille, tu étais à moins 7 ou moins 8, bon, bah c'est bien, quoi, tu t'en fous. Donc c'est ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous aider à gérer votre argent, non pas de façon conservatrice, parce que la performance est aussi bonne, mais de façon à contrôler le risque. Le but, c'est de contrôler le risque. Alors, maintenant, regardons les composants de ce portefeuille. Vous voyez, la ligne rouge, c'est les 10 valeurs sélectionnées qui ont, encore une fois, aucune analyse financière, simplement, elles n'ont rien à voir avec l'État. Voilà, donc, et la ligne bleue, c'est le portefeuille MSCI que vous pouvez acheter avec les indices. Ben, vous voyez qu'on lui met à peu près, moyenne des actions, j'appelle ça des actions capitalistes, 10% par an, les autres, elles sont 7% par an. Donc, vous mettez 3% par an au portefeuille. Ce qui... Dans la gestion, vous êtes toujours géré contre des indices. Quelqu'un qui met ce qu'on appelle 300 points de base, c'est-à-dire 3% par an à l'indice, est considéré comme un génie financier. Et là, c'est pas un coup de génie financier, c'est simplement de dire ça sert à rien d'investir dans des sociétés où l'État a son mot à dire. Donc c'est simplement une simple règle de bon sens. Si vous jouez le capitalisme, c'est pas la peine de jouer l'étatisme, quoi. La moitié des valeurs à Paris sont pas des valeurs capitalistes, sont des valeurs étatistes, quoi. Donc, première règle, c'est vous pouvez pas dormir dans le même lit que l'État. Ça, je l'ai dit 20 fois. Il se retourne et vous êtes aplati, quoi. On l'a vu sur les actionnaires d'EDF. Qu'est-ce qu'ils ont pris les pauvres vieux?
Qu'est-ce qu'ils ont pris les pauvres vieux?
Donc ça, c'est la partie agressive du portefeuille, la partie fragile, hein, la partie bon.
Bah, offensive.
Offensive. La partie défensive, les mêmes. Alors vous avez, j'ai mis l'or et les obligations chinoises. Vous voyez que l'or, qu'il faisait donc 17% du portefeuille, est passé de 100 à 183. J'en ai pas mis assez. Bon, enfin, c'est bien quand même. Et les obligations chinoises, elles sont montées de 100 à 128. Et voilà, ça vous donne, si vous faites 2/3 obligations chinoises, qui était ma recommandation, et 1/3 en or, vous êtes passé de 100 à 147. Donc vous avez fait à peu près aussi bien que le marché des actions, mais avec une volatilité plus faible et surtout une corrélation négative. Donc, partie offensive, partie défensive, ils ont bien fait leur boulot. Alors maintenant, comment on a évité les gamelles? Ben, la vraie gamelle, que je vais vous montrer maintenant, c'est en la page suivante, c'est rentabilité en euros de la partie antifragile du portefeuille et d'une obligation française. Regardez ce qu'a fait une obligation française, basse 100, c'est nominal, hein, le coupon réinvesti, de 2020 à 2024. Vous avez perdu 22%, plus l'inflation, hein, qu'il faudra rajouter à ça. Donc vous avez perdu pas loin de 40% de pouvoir d'achat. Donc la gestion, c'est pas tellement de savoir ce que vous devez avoir, c'est surtout de savoir ce que vous devez pas avoir. Et si vous aviez une partie de votre immense fortune qui était gérée par des banques françaises, elles vous ont automatiquement collé entre 30 et 40% d'obligations françaises parce que c'est supposé être sans risque.
Bien sûr.
Eh ben, un truc qui baisse de 22% et dont on me dit qu'il est sans risque, je me dis qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé sur la
qualification du terme. De sans risque. Si vous voulez dire perdre de l'argent chaque année, oui.
Régulièrement. Et ensuite, même pas être certain d'avoir votre capital remboursé. Donc, ouais. Ça m'amène à un point très important, c'est que vous avez deux définitions du risque. Celle de ma chère maman, qui disait le risque, c'est de ne pas retrouver son poignard.
Oui. Qui est un peu la définition de tout le monde. Hein.
Qui est un peu celle que je comprends. Oui. Bon, tu vois, vous mettez de l'argent, vous l'investissez, puis on vous dit, ah ben non, il est plus là. Il est parti, il a disparu. Bon.
Et j'aurais mieux fait de le dépenser. Au moins, je me serais fait plaisir.
On se serait fait plaisir. Et puis, la deuxième définition du risque, c'est celle qui est faite par les gars, les petits hommes gris, qui font les règles pour permettre aux investisseurs, etc. Donc, ils ont fait toute une série de règles et ils partent du postulat que le placement en obligation française est le placement sans risque. C'est le truc le moins risqué que tu puisses faire. Ce qui, tu prends une obligation, si tu prends une vue à 200 ans, c'est n'importe quoi. Mais ça leur permet de faire passer des règlements disant que vos fonds de pension, l'Agir, Clarco et tous ces trucs-là, vont devoir investir là-dedans parce que, comme ils veulent vous protéger, bien sûr, vous savez, leur but c'est de vous protéger, vous le savez bien. Et comme ils veulent vous protéger, ils vont vous forcer, ces Agir, Clarco, à mettre 40% de votre argent dans les obligations d'État. C'est-à-dire que ça leur permet à eux de continuer à faire n'importe quoi avec le budget, puisqu'ils ont des gens qui sont forcés réglementairement d'acheter des obligations. Donc, de façon générale, on retrouve toujours la même règle. S'il y a une règle qui vous force à acheter quelque chose par l'État, déjà, vous êtes obligé de la suivre si vous avez des fonds de pension, Argicarco ou n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas obligé en plus d'en rajouter, quoi. En rajoutant plus de ces trucs-là, en achetant des obligations françaises, vous augmentez votre risque.
Oui, bien sûr.
Vous cessez de diversifier, vous faites un portefeuille de plus en plus concentré sur ce que l'État fait avec talent, c'est-à-dire gérer votre épargne. Ben, si vous croyez que l'État jette votre épargne avec votre intérêt en vue, à mon avis, vous devriez cesser de regarder ces émissions parce qu'on risque de vous faire changer d'avis. Hein, ce serait d'une grande tristesse. Donc, le portefeuille a à peu près tenu le coup. Alors, je continue. Ben voilà, je crois qu'on a à peu près... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le portefeuille tel qu'il a été continué fait tient la route. Vous n'êtes pas obligé de changer. Parce que regardez, bon, tout le monde me dit LVMH s'est cassé la gueule. Oui, il s'est cassé la gueule, en effet, ben c'est normal. Mais en même temps, Total est monté. Donc, si vous avez 10 valeurs que vous rebâtissez, que vous rebalancez régulièrement, vous avez vendu beaucoup de LVMH quand elle était très élevée. Et donc, vous avez probablement acheté beaucoup de Total quand elle était très basse. Et ben maintenant, le portefeuille, il est probablement en train de vendre des Total qui ont beaucoup monté et acheter des LVMH qui a beaucoup baissé. Donc, et vous n'allez pas vous frapper la tête. Ça se fait automatiquement si vous avez des... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce portefeuille a bien tenu le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans l'Université de l'épargne depuis... depuis qu'elle existe, quoi. On a dit, bon, d'abord, vous avez les obligations chinoises, elles donnent que du 2%. Bon, c'est pas terrible. Mais quand même, si vous en avez, moi je les vendrai pas.
D'accord.
Parce que si l'euro commence à se péter la gueule, vous allez gagner beaucoup d'argent, pas sur le coupon, mais sur le taux de change. Et je reviens à l'exemple... de Volkswagen. Vous savez, c'est la plus grosse société de construction de bagnoles en Allemagne. Ils produisent à peu près 9 millions de voitures par an dans le monde. Ils ont 750 000 employés. Et ils sont dans une situation absolument catastrophique parce que Toyota, qui opère à partir d'une monnaie sous-évaluée, a produit aussi 9 millions de voitures, mais a 350 000 employés. Mm-hmm. Donc, tu te rends compte que le coût du travail pour faire une Volkswagen, c'est grosso modo le double, il faut deux fois plus de gens. Et en plus, ces gens sont payés dans une monnaie, le yen, qui est sous-évalué de 50%. Donc, la pression sur les marges de Volkswagen, ça doit être quelque chose, ça doit être abominable. Ils sont en train de fermer 3 usines en Allemagne. Et en plus, ils sont en train de se faire bouffer, comme les usines qu'ils avaient installées en Chine, sont en train de se faire bouffer par les producteurs chinois. L'auditeur le sait pas, puisque la presse ne l'informe pas dans ce pays, mais aujourd'hui, depuis les 2 dernières années, le principal exportateur de voitures dans le monde, vous savez qui c'est? C'est la Chine.
Ouais, c'est la Chine.
C'est-à-dire qu'ils ont bâti un appareil industriel qui est extraordinairement moderne, extraordinairement performant, et ils vous produisent des voitures de très très bonne qualité à 10 000 euros. Comment voulez-vous que Volkswagen s'en sorte? Donc la seule façon, c'est que le cours de change s'écroule.
Oui.
Donc il faut poursuivre, pour qu'on puisse sauver vaguement ce qui reste de l'industrie européenne, que l'euro se pète la gueule de 50% contre le yen et contre la monnaie chinoise, quoi. C'est autrement, on est fait comme des rats, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas la peine de les vendre maintenant, quoi. Si vous les vendez pour acheter du yen, vous jouez deux fois la même chose. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, je me dis, c'est là. Alors la deuxième chose qu'on avait fait, c'est qu'on avait vendu une partie importante de ces 10 valeurs. Je crois qu'on avait gardé Total, Schneider et Air Liquide à peu près. Vous pouvez garder L'Oréal aussi d'ailleurs, c'est très bien aussi. Ces 4-là, elles sont très bien. Elles finiront de ce qui se passera dans le monde. C'est des valeurs mondiales. Et puis on avait acheté deux choses. On avait acheté un ETF asiatique. C'est-à-dire un ETF asiatique, pour ceux qui ne le savent pas, un ETF Exchange Traded Fund, c'est dans le fond une espèce d'action qui représente les actions cotées sur la bourse, sur les bourses asiatiques. Donc vous avez, en contrepartie de cette action, vous avez des actions qui sont des actions japonaises, chinoises, coréennes, singapouriennes, hongkongaises, etc. Donc c'est une espèce de portefeuille diversifié d'actions asiatiques. Bon, ça me paraît que ça va beaucoup monter, j'en ai beaucoup parlé dans le passé, c'est en Asie que tout se passe. Et puis j'avais recommandé aussi d'acheter 20% d'un ETF, encore une fois, Exchange Traded Fund, de producteurs d'énergie fossile. Alors, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, Amundi en fait. Et là, l'idée, c'est que il y a une possibilité qu'on ait un problème d'énergie dans les années qui viennent, je vous en ai souvent parlé. Et la réalité, c'est que si vous achetez l'indice de la bourse de New York, le S&P, en 1983, au moment de la précédente grande crise pétrolière, ou plus haut, du prix du pétrole, les valeurs pétrolières représentaient 30% de l'indice, c'est-à-dire 30% des valorisations dans l'indice étaient des valeurs pétrolières. Aujourd'hui, après 30 ans de non-hausse en termes réels du marché du pétrole, ou plus, mais 40 ans, les valeurs pétrolières représentent 3% de l'indice. Donc j'ai très peur que si vous achetez un indice, mettons l'indice américain ou l'indice asiatique, s'il y a un pet sur le pétrole, vous allez prendre une gamelle dessus, parce que chaque fois que le pétrole monte, les actions baissent, sauf les actions pétrolières. Donc, ce qui est pas la logique. Hein. Donc à ce moment-là, si vous pouviez mettre 20% dans un ETF asiatique, ETF énergétique, ça me paraît une bonne idée.
J'aimerais qu'on fasse une petite coupure ici pour ceux d'entre vous, et vous êtes nombreux, qui ne savaient pas du tout par quel côté attraper ces histoires d'investissement. Alors, on va commencer par vous expliquer déjà les bases primordiales. Donc, les bases primordiales, vous les avez dans le livre de Charles, « Cessez de vous faire avoir ». Pour ceux qui ont rejoint l'Université de l'Épargne, vous allez le retrouver dans notre offre, dans outils, guide pratique, et vous aurez le guide pratique. Ça, c'est très important dans un premier temps pour vous familiariser avec les différents concepts, pour que vous compreniez
c'est
véritablement...
C'est ce que vous avez sur les rayons, quoi.
Voilà.
Vous pouvez acheter facilement, si vous
mais c'est important de comprendre ce qu'on cherche à faire, ce qu'est véritablement la construction d'un portefeuille, et pourquoi on fait ces choses-là? Parce que sinon, quelquefois, on voit arriver des gens de façon un peu nerveuse qui disent « Dites-moi, il faut acheter quoi ?» Mais c'est pas très grave ce que vous devez acheter, en vérité, si vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. Donc la première chose, c'est déjà bien se poser, comprendre les bases, comprendre la théorie. Et encore une fois, comme disait Warren Buffett, si on ne comprend pas, on ne joue pas. Donc
voilà.
Déjà,
alors,
comprendre.
Un point important aussi, c'est ce qu'on vous recommande, c'est un portefeuille. C'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est pas un menu. Il n'y a pas un truc à la carte. C'est-à-dire, si on vous dit acheter un ETF énergie pour mieux balancer le portefeuille, si vous achetez que l'ETF énergie, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Parce qu'à ce moment-là, vous ne investissez plus dans le cadre d'un portefeuille où les actifs se répondent les uns aux autres. Tout ce qu'on essaye de faire ici, c'est que l'or réponde à quelque chose, l'énergie réponde à autre chose, de façon à ce que votre portefeuille arrive au résultat auquel on arrive. C'est-à-dire qu'il bouge pas trop, mais qu'il continue à monter gentiment. Donc surtout, n'achetez pas qu'une partie de la chose, parce que nous, on donne pas de conseils, on donne des conseils sur la construction du portefeuille.
Voilà. Alors ensuite, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est comment fonctionnent les plateformes d'investissement? Alors nous, de notre côté, Léonard a fait une vidéo dans l'Université de l'Épargne pour expliquer comment investir, la pratique, mais vous pouvez aussi essayer de regarder les différentes plateformes de trading, les différents courtiers. En vérité, ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend si vous voulez, certains d'entre vous en ont plusieurs, que ce soit Interactive Broker, Trade Republic, certains vont aller sur Swissquote parce qu'ils veulent pouvoir avoir accès à You pour l'or, qui leur permet aussi d'être en Suisse en termes de fiscalité.
Oui, avoir votre plateforme, l'endroit où l'argent va être déposé en dehors de France, C'est peut-être pas complètement idiot.
C'est pas complètement con, mais en même temps, il ne faut pas paniquer les gens parce que la Suisse ne nous le rend pas. Si vous n'avez pas un capital à 6 chiffres, vous ne les intéressez pas et vous ne pourrez pas ouvrir de compte dans les banques cantonales. Vous pouvez sur You, mais You a quand même des frais de trading assez élevés. Donc, vous devez vous-même regarder. Nous, on a fait le travail en interne de comparer les différents traders et comparer les différents, le coût des différents ordres de bourse, c'est important pour vous. Et alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez à peu près regardé quel genre de véhicule vous voulez utiliser, quelle est sa consommation kilomètre carré et ainsi de suite, et vous en êtes content, encore une fois, vous pouvez en utiliser plusieurs, vous devez vous poser la question, quelle est l'épargne de précaution que je dois prévoir ? Alors, la première chose, c'est que l'épargne de précaution que vous avez, ça doit être à peu près 6 fois... Si vous gagnez 2000, vous devez mettre 6000 de côté, qui doit être quelque chose auquel vous ne touchez pas, qui va vous permettre, si vous avez le joint de culasse qui lâche, ainsi de suite.
Voilà. Mais alors, là,
et ça, vous ne devez pas jouer avec. Ça
vous
doit
devez
être
pas jouer
vraiment...
avec ces 6000, et il n'est pas évident que vous deviez les garder dans une boîte à chaussures en euros. Vous pouvez mettre dans votre boîte à chaussures, par exemple, des francs suisses. C'est pas plus bête.
Oui, vous pouvez le mettre sur un livret aussi. Vous pouvez mettre sur un LDD, un produit standard d'épargne courte. Vous pouvez aussi le mettre en compte courant rémunéré.
Vous pouvez le mettre en livret A, j'imagine, si vous en avez un.
Voilà, mais il faut pas qu'il soit. Il faut que vous puissiez le sortir
facilement.
Il n'y a pas véritablement de taille de portefeuille idéal. Vous avez, vous pouvez commencer à partir de 5000 euros et à partir de là, avancer tout. Pour ce qui est du timing, il n'y a pas véritablement de timing
pour
investir.
On fait aucun effort de timing.
Pour peu que les ratios entre les actifs qu'on vous propose soient respectés, vous arrivez quand vous voulez. Je vous ai parlé de la Suisse. Vous n'avez encore une fois pas véritablement de moyens d'aller en Suisse pour la plupart d'entre vous, mais vous pouvez, sans passer dans le survivalisme primaire, trouver des moyens de garantir vos dépôts et titres et de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possible pour votre épargne. Ça passe la plupart du temps par des actions au nominatif, ça passe par le fait de prendre certaines peut-être position via des brokers qui sont en dehors de France. Mmh. Ce sont des petites choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Une chose très importante, c'est quelle que soit la taille de votre portefeuille, vous devez absolument rapidement acheter les 4 actifs du portefeuille en même temps, en commençant par la partie défensive, puis la partie offensive. Donc si vous avez par exemple 1000 euros à placer, vous achetez 250 euros d'or, physique ou en ETC, on va y revenir, 250 de yens parce que nous, là, on joue le yen, 250 euros de ETF Asie et 250 euros de ETF Énergie. Voilà, on va revenir sur ce que sont ces ETF et ce que c'est qu'un ETC.
Et ensuite, vous pouvez, la plupart de ces plateformes permettent des versements réguliers dans le portefeuille. C'est-à-dire, vous dites, bon, j'achète 5 000, je ne sais pas combien, 10 000 de 250, 254 fois, quoi. Et ensuite, je mettrai 100 euros par mois. Eh bien, ils sont tout à fait d'accord pour continuer à faire ça et ça se fait avec des frais énormes, quoi.
Donc, je vous remets, ça, c'est le portefeuille de Charles qui va apparaître à l'écran, qui est le portefeuille. Non, ça, c'est l'actuel. Le cash en yen, l'or, ETF Asie, ETF Énergie. Et alors, surtout, très important, vous devez toujours garder le ratio 50-50, 50% défensif, 50% offensif, pour avoir un portefeuille qui puisse être le moins volatile possible. Ce qu'on recherche, c'est pas forcément la rentabilité maximale, c'est que vous puissiez dormir la nuit, que vous ayez à faire le moins de choses possible, et que vous n'ayez à rebalancer, en gros, que tous les trimestres,
voilà.
Et que vous soyez
alors,
tranquille avec ça.
Aujourd'hui, on est 50 défensifs, 50 agressifs. Il est possible pour aujourd'hui parce que les marchés, les économies sont, à notre avis, extrêmement instables, dangereux. Donc, on peut pas rester sans position défensive. Mais j'ai eu des moments dans ma carrière où j'étais tout vert, il n'y avait pas de raison de faire de soucis. Et à ce moment-là, on peut passer à 100% offensif. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on vous dira peut-être dans le futur, tout est vert, on peut y aller, les gars. Mais c'est pas... ça peut arriver, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà.
Voilà. Alors, vous allez évidemment nous demander, oui, mais moi, j'ai un PEA, est-ce que je peux investir dans le nouveau portefeuille de l'UDL dans un PEA ? Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de passer par un CTO. Vous ne pourrez pas investir dans un PEA. Vous n'allez pas trouver les ETF. Ce sera des ETF à réplication. C'est pas les bons. Donc, deux choses l'une. Soit vous avez la possibilité d'avoir les actifs dont on vous parlait, de l'ancien, c'est-à-dire LVMH, L'Oréal, Total. Et tu avais dit garder
Schneider.
Donc vous gardez ces quatre-là et vous gardez votre portefeuille en PEA avec l'idée de la fiscalité et puis vous le fermez progressivement. Et sinon, vous continuez de l'entretenir et vous le fermez à terme. Mais c'est pas...
Mais ça vous force à faire des règles de 3. Bon, alors, j'ai 30 en actions ici, donc il faut que j'en ai que 20 là pour que vous ayez la totalité. Vous voyez ce que je veux dire, ça suppose un peu plus de manipulation. Sur les assurances vie, si vous, j'espère, nom d'un chien, que vous avez plus d'assurances vie dans lesquelles il y a des obligations, parce que tout le temps qu'on le dit, mais si vous avez des assurances vie dans lesquelles vous avez des actions, là aussi, c'est un truc qui est embêtant parce que vous allez vous retrouver, j'ai bien peur qu'ils changent les règles de l'assurance vie.
Voilà. Alors, revenons sur les ETF. Comment bien choisir un ETF ?
Vas-y.
Vous devez regarder que la taille du fonds soit supérieure à 100 millions d'euros. Que vous ayez un mode de distribution par capitalisation qui est souvent dénommé accumulation. Qu'il soit par réplication complète ou en échantillonnage. Et pour nous, pour l'ETF, en tout cas Asie, que l'on recherche, il faudra que l'Inde, l'Australie et le Japon en soient exclus. Que le poids du secteur financier à l'intérieur de l'ETF en question n'excède pas 30% et surtout qu'il n'y ait pas de critères ESG.
Voilà. Alors les critères ESG, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gouvernement qui dit que vous devez financer des moulins à vent et des miroirs magiques, c'est-à-dire tout ce qui est fausse énergie. Et donc ça, c'est une façon de foutre en l'air votre capital, parce que je pourrais vous le montrer un jour si vous voulez, mais il y a un indice des valeurs ESG qui a perdu 50% depuis 2012, ce qui est quand même difficile parce que c'est plutôt monté. Et un indice des valeurs non ESG, c'est-à-dire les Exxon, les Total et tout, qui lui a doublé. Donc, à moins que vous vouliez absolument sauver la planète, qui n'est pas en danger d'ailleurs, parce que tout ça c'est quand même qu'une histoire faite par des gouvernements pour essayer de prendre le contrôle de l'économie. Vous savez, les gouvernements prennent le contrôle de l'économie, ils peuvent faire deux choses. Ils peuvent soit essayer de prendre le contrôle de la monnaie, en général ça se termine mal, c'est ce qu'on voit en ce moment, ou bien ils peuvent essayer de prendre le contrôle de l'énergie. Ce qui est une autre façon de prendre le contrôle de l'énergie, de l'économie, puisque l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Et aujourd'hui, dans un monde où les gouvernements, qui sont tous géniaux, essayent de contrôler à la fois l'énergie et la monnaie. Donc, il faut être doublement attentif à pas faire trop de conneries, quoi. Mais par contre, je vous signale qu'en Asie, je rentre, vous allez en Inde, où j'étais, vous allez à Hong Kong, tout. Ils ont pas l'air d'être passionné par les critères ESG, quoi. Et Trump, qui vient d'être élu, est en train de nommer comme tsar de l'économie un type qui
a une robuste.
Pensée, un type qui a une pensée robuste sur ces questions-là.
Oui, beaucoup de gens ont des pensées robustes sur ces questions-là. Alors, pour revenir sur pourquoi il faut prendre des ETF à capitalisation plutôt qu'à distribution, c'est que les ETF à distribution vont vous verser directement les dividendes et qui vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, vous allez devoir payer 30% en options ou en barème progressif. Alors que les ETF à capitalisation conservent ce que tu gagnes et le réinvestissent. Donc, tu peux avoir des intérêts composés. Tu payeras bien sûr à terme quand tu sors.
On paiera l'impôt sur les plus-values à la fin quand on sortira.
À la fin, voilà.
C'est quand même beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi vous ne devez pas prendre des ETF à réplication synthétique ? C'est qu'ils n'achètent directement pas la valeur. Ils achètent les valeurs visées par l'indice, mais ils vont acheter d'autres valeurs pour essayer de reconstruire la performance de l'indice. Donc, en réalité, quand tu achètes ces ETF-là, tu n'es pas sûr véritablement de ce que tu as.
Et c'est pas des matheux.
Non, mais oui, voilà. Mais
c'est fait par des matheux qui vous disent c'est pareil. Et en fait, c'est pas pareil.
Voilà. Est-ce qu'on doit prendre un ou plusieurs ETF pour couvrir la zone asiatique?
Moi, s'il est de bonne qualité, s'il est suffisamment gros, un seul suffit. Pour le même sujet, un seul suffit.
Vous pouvez prendre plusieurs...
Ce qui veut dire que vous n'avez qu'une ligne et vous n'avez pas à connaître celui qui fait des bagnoles de façon profitable contre celui qui n'en fait pas, qui perd de l'argent. Est-ce que je veux dire ça, c'est le... Vous achetez 40 ou 50 valeurs diversifiées en Asie en une ligne. C'est quand même pratique, quoi. C'est... Et alors, ce qu'il y a d'intéressant dans tous ces trucs-là, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, c'est que on a lancé l'université de l'épargne il y a quoi, il y a 6 mois ou un peu moins, et du coup, on a appris plein de trucs, nous. Les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas, parce que les gens sur l'université de l'épargne nous disent « ça ne m'apparaît pas votre truc », donc il y en a un autre qui explique « voilà ce qu'il faut faire ». Donc c'est un endroit où les gens se parlent. Donc, personnellement, j'ai appris plein de choses sur la façon, justement, de prendre ses positions. Parce que quand vous êtes dans la gestion institutionnelle, vous avez un gars qui est le spécialiste.
Le Bean Counter.
Le Bean Counter, et puis le gars qui passe les ordres. Mm. Ben, lui, il sait. Donc, tu vois, moi, je disais, vous m'achetez un ETF Chine, et pas, il m'achetait un ETF Chine, tu vois, c'est, j'ai pas... Mais là, j'ai plus mon chef de bourse, tu vois, je veux dire. Donc, c'est la communauté qui fait l'office de chef de bourse en disant ça marche pas. Et ben là, on vous fait un petit peu bénéficier de tout ça, quoi. C'est important parce que ça vous évite de faire des erreurs, quoi.
Alors, on va faire un petit point maintenant sur l'or. Je ferme celui sur l'Asie.
Les ETF, oui.
Et maintenant, on va parler un petit peu de l'or. Alors, l'or, ça vous intéresse tous beaucoup et à raison. Mmh. Alors, donc vous, la personne qui fixe enfin c'est un consortium, le London Bullion Market Association, qui fixe le prix comptant de l'or physique. Il est publié 2 fois par jour en US dollars, ouais. Puis il est converti en euros et en Great Britain pound.
Et en principe, le fixing se fait toujours à St. Swithin Lane, dans les bureaux de la banque Rothschild. Donc j'espère que tout le monde comprend que les Rothschild mènent le monde et que c'est un...
Ne dis pas ça aux gens, ils vont te dire oui, bien sûr.
Non, mais je marre parce que ça fait depuis 1830 que l'or est fixé à midi à la banque Rothschild à St. Swithin Lane dans la City à Londres, où j'allais souvent d'ailleurs.
Donc elle est cotée par One Troy, ça équivaut à 31,1035 grammes, et c'est la valeur de référence pour les transactions d'achat et de vente d'or physique.
Ça s'appelle l'once avoir du poids. C'est-à-dire en français. C'est-à-dire que l'once, c'est un truc anglais, mais l'once avoir du poids, c'est avec ça que vous mesurez l'or, et donc c'est autre chose. C'est pas une once, c'est une once avoir du poids. Voilà.
Voilà. Alors c'est là où vous avez plusieurs façons d'aborder l'or. Vous avez les ETC, c'est un peu comme des ETF, mais c'est des Exchange Traded Commodities. Donc c'est la partie, c'est commodities. C'est l'instrument financier qui est négocié en bourse et dont la valeur est liée à la performance d'une matière première. Donc, mais il faut pas confondre quand vous achetez les sociétés d'investissement d'un ETC qui est adossé à l'or et d'un ETF des sociétés minières d'or.
Ça n'a rien à voir. Hein. Il faut se méfier parce que les mines d'or, c'est pas de l'or. Donc les mines d'or, c'est des actions. Donc il y a des tas de gens qui ont acheté des mines d'or en se disant je vais gagner. Comme si l'or monte, ben l'or est monté, les mines d'or, elles n'ont pas fait grand-chose. Donc, faites très gaffe, parce que les mines d'or, ça dépend beaucoup de ce qu'elles ont en réserve dans le sol. C'est-à-dire, c'est maintenant le problème que l'or a, c'est que pour créer de l'or nouveau, en quelque sorte, il faut faire des dépenses absolument monstrueuses, parce qu'on ne trouve plus de gisements d'or. Il n'y en a plus qui soient bien rentables. Donc, ça coûte 10 fois plus cher de faire de l'or qu'il y a 30 ans. Donc les mines d'or, c'est pas une bonne façon de jouer de l'or. Si on achète de l'or, on va avoir de l'or.
Si vous investissez donc dans un ETF du secteur minier, vous n'investissez pas dans l'or, mais dans les actions de sociétés minières.
C'est pas du tout
pareil. Donc ça, vous devez faire quand même très attention quand vous vous lancez là-dedans. L'avantage que vous avez à acheter des ETC, c'est que c'est un instrument financier très liquide. Vous pouvez le faire coexister dans votre portefeuille chez le même courtier que vos actions que vous avez achetées et avec des ETF. Pour ce qui est de la fiscalité, vous avez un prélèvement forfaitaire de 30%. Vous êtes au PUF exactement pareil que pour vos actions. Et vous pouvez compenser vos plus ou moins values avec les plus ou moins values des autres valeurs immobilières à l'intérieur de votre portefeuille. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, ça n'est pas éligible, encore une fois, au PEA.
Non.
Vous n'avez pas d'inscription nominative possible, comme pour les actions. Vous avez la risque, bon, toujours de faillite de votre courtier, mais ça, c'est, voilà. Vous avez le risque de faillite de l'émetteur, c'est pour ça qu'on vous dit prenez des ETC qui soient à grosse capitalisation quand vous le faites. Et le risque que l'or ne soit pas alloué, mais prêté.
Et ça, c'est un truc très important. Alors ça, je vais bien vous expliquer, parce que Le problème, c'est que vous avez un gars qui vous dit, je vous vends une action et je vous garantis que il y a, mettons, pour une once d'or, là, et que j'ai la once d'or dans mes caves à Londres. Bon. Il vous dit ça. Et donc, vous achetez en vous disant, j'ai un bout de papier, mais en fait, j'achète l'or dans les caves à Londres. Mais, historiquement, il y a toute une série de gros malins qui vous ont vendu 10 actions et qui avaient qu'une once d'or dans la...
C'est le principe de la banque en général, ils prêtaient 7 fois,
oui. C'est ça. C'est... Donc, il faut que vous soyez absolument certain qu'une once d'or correspond à une once d'or. C'est pour ça qu'il faut plutôt acheter des ETC là qui sont audités tous les jours par une maison respectable, qu'on fasse bien le rapport qu'il y a en effet un or, parce que... Si vous allez vers des ETC un peu plus sportifs, vous pouvez vous retrouver avec des gars qui ont émis 10 fois plus de papiers, qui n'ont de trucs dans l'or, et à ce moment-là, bon, ils s'en vont et ils vont vivre noblement au Brésil ou en Argentine, mais ça fait pas votre affaire, quoi.
Alors, il reste l'or physique. Alors, l'or physique, ça fait plaisir parce qu'on l'a, hein, on l'a physiquement.
On le regarde.
Et vous pouvez acheter aussi via des plateformes d'investissement d'or physique comme aucoffre.com ou Bullion Vault ou Gold Broker qui vous permettent, comme tu viens de le dire, d'avoir physiquement un or audité. Tu ne l'as pas chez toi, tu n'as pas le risque du coffre-fort et ainsi de suite.
Il y a même certains de ces groupes qui vous donnent une carte de crédit sur votre
or.
Oui,
alors il paraît que ça marche pas bien. Oui. La communauté dit que c'est pas super. J'aimais beaucoup l'idée,
moi
mais
aussi,
après
bien,
investigation de notre
non.
groupe, les gens ont dit c'est Veracash, je crois, et ils ont dit que ça bloquait, que ça marchait pas. Enfin, ils étaient pas flabbergastés.
Bon, très bien. Donc
nous continuons à être sur le dossier, mais pour l'instant,
si on
n'est pas voilà.
Bien, on vous en parlera.
Alors, la fiscalité sur l'or est intéressante. Alors, premièrement, l'or acheté, vous avez un certificat de propriété nominatif qui vous est attribué à chaque fois que vous achetez de l'or. Ça, c'est très important. Il faut le conserver parce que fiscalement, vous pouvez faire jouer différents domaines suivant que vous avez ou pas ça. Vous avez une fiscalité ultra intéressante si vous achetez des pièces au cours légal. C'est le Krugerrand.
Le Krugerrand, oui, ça vient d'Afrique du Sud.
Voilà. Alors, ça, c'est bien. Les Maple, les Eagle US.
Maple, ça vient du Canada.
Voilà. Mais ça, si vous achetez ces pièces-là, hein. Il n'y a aucune taxe si le montant de la vente de votre pièce d'or est inférieur à 5000 euros. C'est pas mal quand même pour un petit, petit à côté. Donc ça, parce que là, vous n'êtes pas taxé. Donc ça, on aime bien. Vous pouvez en plus bénéficier d'un abattement pour la durée de détention. Bien sûr, vous devez le mettre dans un coffre-fort sécurisé. Bon, ça, voilà. Pour ce qui est de la fiscalité du Napoléon, de l'or en lingots et ainsi de suite, dès le premier euro vendu, vous devez vous acquitter de la taxe forfaitaire de 11,5 sur le prix de revente ou de la taxe des plus-values qui est à 36,2 avec un barème dégressif dont j'ai déjà parlé.
Vous pouvez le détenir. Au bout de 25 ans, vous ne payez plus rien.
22 ans, vous ne payez plus rien. D'où la nécessité aussi de bien conserver au moment du titre d'achat.
Voilà.
Mais si c'est pour votre retraite, ça, c'est toujours intéressant. Mais bref, on dirait plutôt aux gens d'acheter des pièces à cours légal ou des jetons. Mmh. Et surtout, arrangez-vous pour chaque transaction ou revente de pièces, soit en dessous des 5000. Et vous pourrez utiliser la plus-value non imposée pour injecter des fonds dans la partie des actions
voilà.
qui a baissé. Voilà. Donc ça, c'est pour l'or physique.
Mmh.
Moi, je trouve ça toujours intéressant de se dire que on peut avoir un petit matelas.
Alors sur l'or, un truc important, c'est qu'on a fait ici à Paris avec Didier des tas de travaux sur le très long terme. C'est-à-dire, on a été chercher sur 150 ans le prix des différents actifs, les actions, etc. On a trouvé des statistiques depuis 1840 sur la France et depuis 1890 sur les États-Unis. Donc ça nous donne quand même un peu de profondeur. Obligations, le cash et les obligations, c'est pour ainsi dire toujours détruit quand vous avez une guerre. Les guerres, c'est l'horreur, hein, pour les parties contrats, là. Les actions, elles reviennent à la fin, mais on peut souffrir pendant un grand moment. Ce qu'il y a de bien avec l'or, c'est que lui, il en a rien à foutre des guerres.
Mmh.
Donc, dans le portefeuille, c'est donc la partie... si vous perdez tout, il vous restera ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà mieux que rien, quoi. Donc c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que l'or, c'est un machin qui est une façon de se protéger contre les folies du monde.
Mmh.
Voilà, donc t'as un petit, t'adores, et puis comme ça, bon, t'auras toujours de quoi bouffer, quoi. Donc c'est pas... Mais par contre, ça fera moins bien que sur les actions qui, comme Air Liquide, qui capitalisent sur le long terme et tout, mais en cas de guerre... Moi, je me souviens, j'avais une vieille tante que j'aimais beaucoup. Elle avait quelques... C'était une bonne famille de Normandie. Elle avait des actions, et en 1940, elle avait, je crois, des Royal Dutch Shell, qui était un truc, placement de père de famille, hein, plus je sais pas quoi d'autre. Eh bien, l'État français lui a tout pris, ses actions. En lui donnant un bout de papier, en disant, voilà, elles valent 200, je vous rembourserai 200. Et mais 5 ans après, les 200, ça valait 10, quoi. Tu vois,
bah
c'est
oui,
ça.
Parce qu'ils ont dévalué 40 fois.
Voilà. Donc, c'est ça qui est embêtant. C'est que, mais par contre, si elle avait eu 3 pièces d'or dans son truc, tu me racontes une histoire. C'est qu'elle avait aussi un mari qui aimait beaucoup le Bourgogne. Et donc, quand il y a les Allemands ont envahi la Normandie et tout, il a fait dans sa cave, il a caché toutes ses bouteilles de Bourgogne en faisant un faux mur.
Un
vrai mur, etc. Et puis ils ont tous oublié.
Comme toujours.
Et puis 20 ans après, elle a retrouvé les bouteilles. Il était mort. Elle a retrouvé les bouteilles. Et donc, on s'est tapé un bouteille Bourgogne remarquable que les Allemands n'avaient pas bu, quoi. Voilà. C'est...
Bah, encore un que les Allemands n'auront pas, suivant là. Voilà.
C'était très bien.
Alors, il nous reste à couvrir les ETF énergie. Donc, parce que encore une fois, on a fait ETF Asie, on a fait la partie or. Bon, les yens, vous passez par par Trade Republic. Enfin, voilà, vous.
C'est pas difficile, c'est Revolut, un placement en cash.
Revolut, vous avez facilement du yen si vous. Encore une fois, on n'est pas arrivé à la parité des pouvoirs d'achat, donc vous pouvez encore jouer le yen.
Bien sûr.
Certains d'entre vous, en tout cas moi dans mes groupes, me disent « Oh non, j'ai pas envie d'être 33% yen ou 30 ou 25%, donc je me laisse 10% yen pour prendre la petite hausse quand elle viendra. » Voilà, ça, libre à vous. La rigueur, c'est voilà. Mais en tout cas, vous devez faire attention. N'allez pas sur les entreprises énergétiques asiatiques, parce que sinon, vous allez... elles sont déjà incluses dans les ETF Asie, dont on a parlé. Et donc, vous allez vous retrouver à superposer vos investissements, ce qui, en fait, ne diffère pas le risque. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir deux fois la même position dans deux ETF différents, parce que vous allez vous retrouver avec du risque supplémentaire. Ne superposez pas, essayez de rester général dans ces cas-là.
Si vous voulez, alors, pour les fidèles lecteurs de l'Institut des Libertés et auditeurs de l'Institut des Libertés qui sont avec nous depuis très longues années, on fera ça à peu près, j'imagine, deux fois par an. Parce que c'est pas parce que vous êtes pas à l'université de l'épargne qu'on vous aime pas.
Voilà. Alors, pour ceux, parce que certains d'entre vous... Non, vous ne sentez pas des pieds. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont demandé, aussi, oui, il y a un forum très... actif à l'Université de l'Épargne où on discute des choses entre nous et on se repasse des petits tuyaux et on s'explique les choses. Et aussi, il y a des rencontres en physique avec Charles pour discuter. Voilà, et on essaie
pour
de faire
connaître.
Ça 4 fois par an, voilà, avec nos auditeurs. Voilà, j'espère que, en tout cas, ce petit point aujourd'hui vous aura permis de remettre au goût du jour votre portefeuille, que vous soyez moins surpris des choses quand j'en parle sur Twitter et ainsi de suite,
oui.
Parce que certains d'entre vous disaient, mais comment le portefeuille a changé? Moi, j'avais l'impression qu'on l'avait dit urbi et orbi, mais tout le monde ne suit pas.
Ils peuvent rater une émission, hein, ça peut arriver.
Oui, voilà. Mais j'avais l'impression qu'on l'avait dit,
Quoi. Mais l'essentiel, c'est de toujours garder à l'esprit que ce portefeuille est comme une voiture. Vous pouvez pas simplement acheter les pneus ou simplement acheter le moteur. Vous devez acheter l'ensemble de la chose parce que c'est un ensemble. On a vu ici, quand on a fait la première réunion avec les auditeurs là qui étaient venus ici, on a beaucoup bu. Des vins que beaucoup avaient amenés d'ailleurs, c'était très sympathique. Et il y en a quelques-uns qui me disaient, mais j'ai acheté les LVMH et je me suis fait massacrer. Ben, on lui a dit, ben oui, c'est pas du tout l'idée. On fait pas du stock picking, on fait pas du choix individuel. On vous bâtit un machin. Donc vous achetez le machin, vous achetez pas les pièces.
Oui, et j'ai aussi certains qui m'appellent en me disant « Mais la bourse asiatique a baissé !» Oui, mais vous n'allez pas m'appeler à chaque fois qu'il y a une volatilité d'un des deux marchés. Encore une fois, c'est sur un temps long, c'est sur 4 ans. Et c'est ce que je dis souvent, je vais vous imposer des stages de Bitcoin parce que...
Ah oui, parce que le Bitcoin, ça bouge beaucoup.
Et tous les investisseurs qui se tournent ensuite disent « Ah ben moi, de toute façon, je suis tranquille parce que moi, j'ai été sur Bitcoin, donc maintenant, j'ai le cuir tanné, tu vois.
Oui.
Et ah oui, autre chose, chose, comme le but est la recherche de la non-volatilité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bitcoin dans le portefeuille de Charles. Inutile de tout taper dessus, inutile de nous dire quoi, il n'y a pas de bitcoin. À la marge, beaucoup de nos adhérents ont du bitcoin pour 10% dans leur portefeuille.
Et ça, c'est leur problème.
Et honnêtement, très bien pour eux, et c'est un peu comme avoir plus d'actions quand on est plus jeune. Mais comme ici, l'idée, c'est de préparer l'épargne au temps long pour des gens qui n'ont pas forcément la culture économique, qui n'ont pas envie d'y passer beaucoup de temps et qui ont peur, justement, dès qu'il y a un mouvement, on ne peut pas leur recommander d'avoir du bitcoin parce que c'est trop émotif pour eux.
C'est émotif pour tout le monde. Mais
Mais tu vois, Léonard, il le gère très bien en émotion parce qu'il est jeune et que il voit ça comme quelque chose d'amusant. Mais je ne dirais pas à quelqu'un de 50 ans d'aller sur du Bitcoin, sauf s'il a vraiment l'esprit Far West.
Oui, et puis en plus, c'est bien joli, mais ça monte de 40% en 3 jours, mais ça peut baisser de 50% en 10 jours. Et donc, comment voulez-vous qu'on rentre dans un machin? À ce moment-là, si j'en mets du bitcoin, ou j'en mets tellement peu que ça n'a pas d'influence sur la performance, mais parce que son impact sur la volatilité du portefeuille sera gigantesque.
Ben voilà.
Donc, c'est...
Donc, non, mais ça dépend ce qu'on cherche. Pour des gens qui sont dans un portefeuille offensif-offensif, parce que nous, c'est offensif-défensif, oui, why not? Mais c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme, est-ce que vous cherchez un manteau d'été, un manteau d'hiver, des bottines voilà, bon, là, on cherche
Il faut jamais oublier que le manteau d'hiver, il faut l'acheter en été parce qu'il est en solde.
Et
le martel, il faut toujours essayer d'acheter pendant les soldes.
Bah, c'est ce que je faisais quand les enfants étaient petits. Résultat, les trucs étaient trop petits.
Parce qu'ils grandissent.
Trop grands. Alors, j'essayais de prévoir.
C'est pour ça que c'est bien d'être dans des familles où il y avait de nombreux enfants, parce que moi, j'avais un frère qui avait 18 mois de plus que moi. Donc, les chaussures qui étaient devenues trop petites, c'était pour moi. Les pantalons qui étaient devenus trop petits, c'était pour moi. Donc, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai jamais eu d'affaires neuves.
Oui, c'était une autre époque où, effectivement, les habits.
On se passait des trucs.
Non, mais c'est vrai qu'autrefois, les habits coûtaient cher. Hein, on en avait peu. Maintenant, quand on voit cette manne de tissus qui arrivent de partout, ça coûte rien. Et je suis toujours atterrée, cela dit, ma sœur aussi, de voir mes petits neveux qui perdent les pulls tous les jours.
Absolument.
Le petit là, Victor, mais tu te souviens pas la dernière fois à la montagne, il a perdu ses 7 pulls.
Mais il les enlevait parce qu'il avait trop chaud et puis il pensait plus.
Mais il est où ton pull?
Ah bon, j'avais un pull.
Bah alors.
C'est tout à fait étonnant. Mais il y a les rapports aux choses ont beaucoup changé depuis 40 ans. C'est-à-dire que on avait peu de choses, mais c'était en général de bonne qualité. Maintenant, on a plein de trucs.
Mais le mieux, c'était quand même mon frère Édouard qui était à la cathédrale de Chartres en visite avec les Louveteaux. Et ils ont un béret. Mmh. Et il revient le soir, il n'avait pas son béret. Maman lui dit, il est où ton béret? Il dit, on me l'a volé à la cathédrale. Bien sûr.
Surtout qu'il est gentil, il en reste un peu.
Lui aussi, il a dû en perdre des pulls. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit topo vous aura, agréé, que vous aurez été heureux de nous suivre.
Et surtout, dites-vous bien que ce portefeuille a été fait pour vous protéger littéralement contre une gamelle qui apparaît inévitable sur l'euro, sur l'économie française, etc. C'est-à-dire que quelque part, ça doit être un roc qui vous permettra d'être plus tranquille quand tout va partir en dig-dig, quoi. Ce que je ne souhaite pas.
Ce qu'on ne souhaite pas, mais bon,
mais qui semble inévitable.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine, et travaillez bien. À bientôt.
À bientôt.